La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Ce matin, la presse africaine revient sur ce massacre perpétré dans la nuit de dimanche à lundi dans un village d'Ogon du centre Mali.
Près de 100 morts, nous dit le site Mali Actu, 95 selon un premier bilan officiel dans ce village de Sobanoukou, attaqué à la nuit tombante dimanche par des hommes armés. Les occupants de ce campement d'Ogon ont tous été exterminés d'après le maire de la commune. Ceux qui ont tenté de fuir ont été abattus. Et Mali Actu de publier une vidéo tournée hier matin où l'on constate que oui, comme le dit aussi le maire, le village a été en grande partie dévasté par l'incendie. Les assaillants ont tenté de brûler un maximum de maisons avec à l'intérieur les corps de leurs victimes. On est face à une morgue à ciel ouvert, déplore le blogueur malien Adam Thiam sur la plateforme bembere.org. Face aussi et surtout à la énième page sanglante de la chronique d'une région qui brûle. Au cœur du plateau d'Ogon, au centre du Mali, on est sur l'épicentre emblématique du tourisme malien, ou ce qu'il en reste. Car depuis quelques semaines, c'est la menace terroriste qui occupe tous les esprits et toutes les unes des journaux de la région. Sur l'antenne de Mikado FM, la radio lancée il y a quelques années par la force de l'ONU au Mali, la MINUSMA, on prend bien soin de rappeler que les tueurs de Sobanoukou n'ont pas encore été formellement identifiés, mais que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait mis en garde dès la semaine dernière contre le risque de voir ce type d'atrocité se multiplier dans le centre Mali. Hier, le chef de la MINUSMA a appelé les Maliens à un sursaut national face à cette spirale de violence dans laquelle, dit-il, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre.
Et ces mots nous ramènent directement à ce qui s'est passé dimanche soir à Sobanoukou.
Et qui est décrit par le journal en ligne burkinabé Wakatsera comme le cycle infernal des massacres intercommunautaires. Cette fois, c'est un village d'Ogon qui a été décimé. C'est l'exacte et effrayante réplique, confirme Adam Thiam pour Bembere, de ce qui s'était passé à la fin du mois de mars dans le village de Ouassagou, où cette fois c'était une centaine d'habitants Peul qui avaient été tués. Peul d'Ogon, éleveurs, agriculteurs, semi-nomades, sédentaires, musulmans pour certains, catholiques. C'est vrai qu'il serait tentant de réduire ce qui se passe en ce moment dans le centre du Mali à une résurgence de tensions meurtrières entre deux communautés rivales. Mais il faut se rappeler de ce qu'écrivait fin avril Aissatou Diallo dans le magazine Jeune Afrique. Elle mettait en garde contre les risques de l'ethnicisation médiatique croissante de l'actualité malienne. À vouloir tout voir à travers le prisme communautaire, on oublie de souligner le poids destructeur des djihadistes dans la région, eux qui n'hésitent pas à jeter de l'huile sur le feu des ressentiments ethniques pour notamment recruter des peuls et renforcer les stéréotypes sur la violence supposée de ces derniers. Et c'est ainsi, poursuit Wakatsera, que vole inexorablement en éclat le vivre ensemble légendaire malien, emporté dans le cycle irréversible de la vengeance. Pour ne rien arranger, il faut aussi évoquer l'incapacité des forces armées maliennes à protéger leur population. Et que dire des forces étrangères françaises en particulier, tout aussi impuissantes malgré leur déploiement il y a maintenant 6 ans. Sobanoukou, c'est la confirmation de l'inutilité des forces étrangères au Mali, écrit Aboubakar Sidik Fomba sur Mali Actu. Le sentiment anti-français se développe au Mali, embraye Wakatsera, qui rappelle tout de même qu'alimenter cette haine-là, c'est aussi l'une des armes préférées des djihadistes pour semer le chaos dans le Sahel.
Et alors au Royaume-Uni, la course qui mène au 10 Downing Street est officiellement lancée.
Et il y a 10 candidats officiellement enregistrés pour ce poste de Premier ministre britannique, libéré vendredi par Theresa May. On l'a dit en fin de semaine dernière, le processus sera long, May va rester en fonction jusqu'à ce que son successeur soit désigné, pas avant la mi-juillet, car le processus de désignation mérite qu'on s'y arrête un peu, tant il pose question d'un point de vue démocratique. À voir comment les Britanniques vont choisir leur chef de gouvernement, on se dit que finalement le mode d'élection du président aux États-Unis n'est pas si mauvais que cela, estime par exemple CNN. Plus fort encore que le complexe système donc des grands électeurs américains, au Royaume-Uni, le Premier ministre est choisi derrière des portes solidement fermées, explique CNN. Et par un électorat proprement minuscule, seuls pourront voter les 330 parlementaires conservateurs et 160 000 en gros membres du parti. Analysé par le très britannique John Oliver, animateur de Late Show sur la chaîne américaine HBO, voilà ce que ça donne.
There will be no general election. Instead, the new leader will be chosen by May's own party, the Conservatives.
Il n'y aura pas d'élection, explique Oliver. Le prochain Premier ministre sera choisi par les 124 000 militants du parti à jour de leur cotisation, dont la plupart sont issus des classes supérieures et ont plus de 55 ans. Imaginez donc, un petit groupe de vieux riches va décider seul du futur de tout le pays. C'est un peu comme si la Grande-Bretagne avait sa propre Floride. Blague à part, CNN clôt son article en ligne en expliquant qu'au final, les électeurs britanniques pourront peut-être peut-être tout de même être amené à voter dans un avenir proche, au cas où le prochain chef de gouvernement échouait à faire à son tour adopter un accord de Brexit au Parlement, ou bien précipitait le Royaume-Uni dans un Brexit sans accord, alors les conservateurs pourraient bien se retrouver obligés de remettre leur suprématie en jeu dans un suffrage universel cette fois.
Et puis on termine, Camille, avec des nouvelles du tableau le plus cher du monde.
Et oui, vous vous en souvenez peut-être, c'est Salvator Mundi, portrait du Christ Sauveur attribué tardivement à Léonard de Vinci et vendu il y a 2 ans 450 millions de dollars aux enchères chez Christie's à New York. Depuis, personne ne savait qui avait acheté l'œuvre, ni ce qu'elle était devenue. Et bien ce matin, The Guardian et nombre d'autres titres de la presse à travers le monde se font l'écho de cette information. Le média spécialisé dans les arts, Artnet, a retrouvé Salvator Mundi et le tableau. Voilà, le tableau se trouve sur Seren. Seren, c'est le yacht du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. C'est donc bien lui le mystérieux acheteur, affirme au passage Artnet, confirmant une rumeur persistante. Et ce serait, ajoute The Guardian, une tendance chez les milliardaires de la planète de garder les plus belles pièces de leur collection privée sur leur super yacht. Alors il faut aussi rappeler qu'au moment de son achat aux enchères, le tableau était censé être exposé au public au musée du Louvre d'Abu Dhabi, ce qui devait être, selon les dirigeants émiratis, leur cadeau au monde. Finalement, il semble que MBS ait préféré garder le cadeau pour lui, à moins, comme le sous-entend The Guardian, que les récents doutes émis sur l'authenticité de Salvator Mundi par plusieurs experts de Vinci ne l'incitent à cacher cette acquisition qu'il a faite à plus donc de 400 millions d'euros et qui, s'il était confirmé qu'elle a été peinte en fait par un étudiant de l'atelier de Vinci plutôt que par le maître lui-même, verrait sa valeur ramenée à 2 millions d'euros grand maximum.
Et oui, et dans ces conditions, on pourrait le mettre sur un yacht. Merci beaucoup, Camille Magnard.